Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission L'écho des entreprises sur votre radio Eau de Radio fréquence 91.3. Aujourd'hui, lundi 16 novembre, a eu lieu aujourd'hui à Paris le coup d'envoi de la 24e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, ou SEEPH, qui se déroulera jusqu'au dimanche 22 novembre 2020. Cette édition a pour ambition de développer les trois thématiques suivantes. Le numérique, envisagé comme un levier pour accélérer l'inclusion des personnes handicapées dans l'emploi. L'école inclusive, ou comment peut-elle préparer les jeunes enfants dès leur toute première scolarisation à devenir les acteurs d'un changement de regard et de posture vis-à-vis du monde de l'emploi. Et aussi, le handicap invisible. 80% des handicaps ne se voient pas. Faut-il en parler ou ne pas en parler ? Pour nous en parler ce soir, justement, nous avons le plaisir de recevoir dans les studios d'Eau de Radio Vina Sidoyal, coordinatrice emploi accompagnée pour l'ADAPT à l'ESAT de Floirac, et vous êtes responsable du dispositif ESAT hors les murs dont vous nous parlerez tout à l'heure. Est-ce que nous avons fait une petite erreur dans vos attributions à l'ESAT de Floirac ?
Pas du tout. Bonsoir Aïcha, bonsoir.
Merci d'être avec nous et justement, on va commencer tout de suite par parler de cette association qui est l'ADAPT. Et donc, dites-nous quelle est sa vocation, son ambition et votre travail précisément à l'ESAT de Floirac.
Alors effectivement, l'ADAPT est une association, donc une association qui est reconnue d'utilité publique. Elle a été fondée en 1929 par Suzanne Fouché, qui était une jeune femme tuberculeuse qui a été un petit peu choquée sur effectivement la prise en charge des personnes malades. Et dans ce cadre-là, effectivement, on a une association aujourd'hui qui a la chance d'avoir l'opportunité d'accompagner différentes personnes en situation de handicap. Alors quand je dis ça, ça veut dire qu'on n'est pas spécifique à accompagner une pathologie bien spécifique comme d'autres associations peuvent le faire. On est donc partout en France représentés. On a sur des chiffres de 2019 112 établissements qui vont de l'accompagnement, de la scolarisation à la formation avec des CRP. On a aussi bien des structures plus sanitaires avec l'accompagnement médical des personnes en situation de handicap et également des établissements type ESAT et ESAT hors mur auxquels moi je fais partie aujourd'hui pour travailler l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.
Alors parlez-nous justement de l'ESAT de Floirac donc sur notre territoire et de ses particularités, s'il en a une, je crois que oui.
Oui, tout à fait. Alors l'ESAT Gaillon-Richelieu de Florac donc a été créé en 90 et l'ESAT hors les murs lui a été créé en 2001. Alors l'ESAT de Florac donc a la particularité d'accompagner des personnes dites cérébro-lésées avec une lésion cérébrale acquise. Alors derrière ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que nous avons en accompagnement des personnes qui ont eu un AVC par exemple, un traumatisme crânien ou une lésion cérébrale, ça peut être une tumeur cérébrale, par exemple. Donc on est face à des personnes qui ont eu un accident de la vie, donc des compétences, ne l'oublions pas, avant, et aujourd'hui qui se retrouvent avec donc, des séquelles qui font que l'emploi doit être vu différemment. Donc on a des personnes qui peuvent effectivement travailler dans ce qu'on dit le milieu ordinaire, donc les anciens CAT, mais on les appelle plus comme ça, donc les ESAT. L'ESAT de Floirac a la particularité de travailler plus dans les activités industrielles, façonnage, ce qu'on va appeler du routage, petite mécanique. On va avoir aussi du conditionnement. Et on est sur des personnes qui peuvent travailler à temps plein ou à temps partiel. Voilà.
À titre d'exemple, je crois que les ESAT de Floirac a beaucoup participé à la confection de masques pour la commune, la municipalité, déjà dès le premier confinement.
Oui. Alors on a travaillé avec une association, enfin avec une entreprise qui se situe à Bègle, sous Hélène d'ailleurs, qui effectivement a fait appel à nos services pour travailler le conditionnement de ces masques qui ont après été distribués. Donc on a pu apporter une certaine contribution à cette crise sanitaire. Et par rapport à l'ESAT hors les murs, donc qui a eu vocation de naître, on va dire, en 2001, 2011, pardon, c'était par rapport à cette idée que ces personnes qui sont en situation de handicap, qui ont une expérience, ne voulaient pas forcément dire non à l'entreprise dite milieu ordinaire. Donc, de ce postulat a été décidé de travailler sur un dispositif qu'on entend aujourd'hui un peu de type emploi accompagné. Donc, on a une méthodologie de travail qui s'y approche, c'est-à-dire que on accompagne des personnes sur leur projet professionnel. On travaille sur des évaluations pour qu'ils puissent mieux se connaître et qu'on puisse mieux les connaître nous aussi, savoir s'ils peuvent travailler le matin ou plutôt l'après-midi, quel type de compétences sont transférables. Mieux se connaître, c'est aussi mieux se valoriser en entreprise. On essaie de travailler avec eux aussi, non pas de parler du handicap, mais de leurs compétences, de leurs atouts qu'ils peuvent mettre à profit au sein de toutes ces entreprises, qui finalement ont vraiment, ces entreprises ont souhait d'intégrer effectivement ce type de compétences. On le voit parce que on a mené là des actions pendant la SEPH, ne serait-ce qu'autour des entreprises de la zone commerciale de Bouliac. Mmh. On a contacté 46 entreprises. Sur ces 46, on en avait 21 qui ont répondu présentes pour nous accueillir et de parler de leur entreprise, de leurs compétences. Mmh. Et pourquoi pas être partie prenante pour des stages, pour des enquêtes métiers et voire plus peut-être des mises à disposition. Malheureusement, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, on en a nettement moins qui pourront être présentes parce qu'elles ont dû fermer. Mais la conclusion, c'est de se dire aujourd'hui, oui, on a des entreprises qui souhaitent.
Après presque 10 ans, en fait, que les Esator les Murs, le dispositif existe, donc ça va faire 10 ans l'année prochaine, vous avez remarqué une évolution. Là, il y a du coup 50% finalement des entreprises contactées qui ont répondu présent. Est-ce que c'était différent au début? C'est un travail qui s'est fait de longue haleine? Comment ça s'est passé? Alors, dans votre parcours professionnel à vous?
Différent au début, ça va être compliqué pour moi d'y répondre parce que j'y suis depuis 2014. Donc j'ai pas.
Sur ces 5 dernières années, voilà. Vous constatez une évolution?
Alors, sur ces 5 dernières années, on a quand même, moi je vois de belles rencontres. Je vois vraiment des entreprises qui ont une volonté de vouloir intégrer, de mieux comprendre en fait comment on peut aussi intégrer une personne en situation de handicap. Et je crois que le dispositif Esator Murs a toute sa place parce que j'ai travaillé dans le droit commun. Et c'est vrai que de pouvoir aller au sein de l'entreprise, sensibiliser autant les RH que les équipes qui vont travailler avec la personne en situation de handicap, ça a toute son importance. Parce que c'est quoi, finalement, la difficulté quand on parle handicap et emploi? C'est peut-être une appréhension, peut-être des préjugés, peut-être une méconnaissance. Mais faire tout ce travail en amont, ça ne peut que faire en sorte de valoriser autant l'entreprise que la personne qui souhaite travailler.
Que votre bénéficiaire. Ouais. Justement, donc, vous avez reparlé de la SEPH.
Ouais.
Encore l'an dernier, le handicap restait le premier motif de saisine du défenseur des droits en matière de discrimination. Donc, parler encore du regard et du handicap et essayer en tout cas de modifier ce regard tant que faire se peut, ça reste dans les tiroirs et quelque chose qui est encore nécessaire. Et pour favoriser les recrutements, justement, le gouvernement a annoncé ce matin un plan de relance de 100 millions d'euros pour les personnes handicapées, donc 15 millions pour l'emploi accompagné. C'est aussi 85 millions débloqués pour les aides à l'embauche avec cette prime de 4 000 euros qui est prolongée jusqu'au 30 juin 2021. Toutes ces mesures-là n'impactent pas forcément votre activité en milieu protégé, puisque vous faites, il y a les ateliers et les mises à disposition, donc on n'est pas dans de l'embauche réelle. Mais est-ce que tout ça, ce type de mesures, en fait, peuvent quand même contribuer à au moins mettre la question du handicap des personnes sur la table?
Oui, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, la conférence qui a été menée, où notre président Patrick Goyer était présent.
De l'ADAPT,
tout à fait, a vocation de pouvoir toujours inciter, je dirais, à faire en sorte de faire changer les mentalités, de faire ce changement de posture face au handicap et l'emploi, de pouvoir promouvoir les compétences cachées, tout simplement, et démystifier le handicap. Donc oui, c'est effectivement plus que positif.
Mais justement, on va avoir un témoignage en chair et en os, j'ai envie de dire.
Oui.
Il s'appelle Étienne Faure, il a 35 ans, Il est passé par les ZAD de Florac, il est encore bénéficiaire. Et lui, il a fait les deux. Il est allé dans l'atelier et puis il est allé en milieu protégé. On va l'appeler. Mais pour pouvoir l'appeler, puisqu'on est en période Covid aussi à la radio, on va faire une petite pause musicale. On va écouter Maïdje, qui est une artiste bordelaise. Et ben, elle le dit, hein, plus rien n'est pareil.
Tout tourner dans ma tête. Des jours après, je recompte les semaines. Alimenté par sang dans mes veines. À trop compter, j'en oublie le merveilleux. Regarde maman, je suis sans gêne. Je regarde maman, je suis à l'aise. Deux, trois coups de fil, une belle vie. On voit bien que rien n'est pareil. Regarde maman, je suis sans gêne. Je regarde maman, je suis à l'aise. Deux, trois coups de fil, une belle vie. On voit bien que rien n'est pareil.
Vous êtes avec nous ?
Oui.
Bonsoir Étienne et merci d'avoir répondu présent à notre appel. Je suis avec donc Vina Sidoyal sur Eau de Radio, fréquence 91.3. L'écho des entreprises ce soir se penche sur la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, la SEPH, qui va se dérouler jusqu'au dimanche 22 novembre 2020.
C'est ça.
Vous-même, vous avez bénéficié de l'accompagnement de l'ESAT, de Florac. Vous avez commencé à l'atelier et puis ensuite été mis à disposition en entreprise. Est-ce que c'est une expérience qui vous a plu déjà ? Est-ce que de travailler en milieu ordinaire, ça a été une expérience plutôt positive pour vous ?
Alors, j'ai beaucoup apprécié l'étape de milieu ordinaire, enfin, ma mise en place dans le milieu ordinaire. En fait, ça a été une sorte de... En fait, j'ai été mise à l'épreuve. Enfin, j'ai commencé à travailler dans les ateliers, donc à l'ESAT. Et ensuite, quand ils m'ont estimé capable de franchir une étape supplémentaire, ils m'ont fait passer cette étape. Du coup, j'ai d'abord essayé dans une conciergerie d'entreprise chez la BNP Paribas, à Mérignac. Oui. Et c'était chez Easy Life que ça se passait. Vous voulez que je vous raconte un peu comment ça s'est passé ou...
Dites-nous, avec plaisir.
Alors, c'était en temps plein, c'est-à-dire que tous les jours, je faisais 10 heures, non, ouais, je crois que je faisais 11 heures, 15 heures, je faisais une petite ampleur par jour, mais c'était assez intensif, oui. Parce qu'en fait, il y avait pas mal de gens qui passaient dans cette conciergerie, C'était pour les salariés de l'entreprise VNT. Mmh. Et en fait, comme c'est leur pause déjeuner, moi je déjeunais avant. Et ensuite, pendant tout le temps de leur pause déjeuner, eux, ils pouvaient passer à la conciergerie d'entreprise.
D'accord. Donc pour les auditeurs qui nous écoutent, une conciergerie d'entreprise, c'est une boutique pour les salariés, en fait.
Exactement. C'est à l'intérieur de l'entreprise. Donc dans ce cas-là, c'était la BNP. C'était pour les salariés de la BNP qui travaillaient à la BNP. On proposait quelques offres, quelques fournitures pour les salariés. Donc il y avait en majorité, c'était du Nespresso. Il y avait aussi un peu de nourriture qu'on achetait nous-mêmes. Mmh. Nous-mêmes, je voulais dire la société Easy Life, et qu'on déposait en vente, qu'on déposait en vente.
Ouais. Mmh. Et du coup, cette expérience, donc avec, on l'avait bien compris, une amplitude horaire adaptée à votre situation de handicap. Et du coup, de travailler donc après avoir été dans un milieu protégé comme les ZAT et d'arriver comme ça dans ce qu'on appelle le milieu ordinaire, puisqu'il faut bien lui donner un nom, ça s'est fait du coup plus facilement parce que vous étiez passé d'abord en atelier, vous aviez appris peut-être à reprendre un rythme. Comment ça s'est passé du coup?
En fait, j'avais pas vraiment la conscience que le travail me fatiguait. Du coup, quand j'ai commencé les ZAT, je pensais que ça allait passer sans problème, les ZAT, pas de soucis. Et en fait, je me suis rendu compte que rien que de commencer à travailler les ZAT, ça me fatiguait mentalement. C'est-à-dire qu'une action que pour les personnes classiques, ça poserait pas de soucis. En fait, moi, ça me travaillait, ça me fatiguait beaucoup mentalement. Et en fait, je l'ai découvert aussi quand j'ai commencé à travailler la BNP Paribas. C'est-à-dire que quand je suis chez moi et que je fais des choses classiques, je suis comme une personne normale. Mais quand j'ai pas mal d'interactions avec pas mal de clients, justement à la BNP, là, il y en avait pas mal beaucoup par jour. J'étais assez fatigué quand même. Et du coup, ça m'a permis de me rendre compte que j'étais pas comme avant, quoi. Pas comme avant mon accident, c'est ça que je veux dire.
Ah, oui. Ouais. Ce qui est intéressant, pardon, c'est effectivement ce que vous dites, Étienne, c'est tout ça l'enjeu, en fait, aussi de cette période d'accompagnement sur les ZAT hors mur, c'est que vous apprenez à vous connaître. Et ça, pour la suite, dans le cadre des démarches qu'on met en place, c'est nécessaire, en fait, pour pas se mettre en difficulté et pour avoir l'idée de pérenniser vraiment les postes sur du long terme, c'est important d'avoir cette vision-là. Voilà.
Et justement, Étienne, je rebondis sur ce que vient de dire Vina Sidoyal. Est-ce que l'accompagnement donc du personnel de l'ESAT, et là, vous parlez, elle est là, elle entend tout. du coup, est-ce que vous êtes senti protégé, justement, accompagné? Parce que j'ai cru comprendre, puisqu'on a déjà échangé pour les auditeurs, qu'il y a eu des moments aussi qui peuvent être parfois un petit peu compliqués, avec la hiérarchie, avec... est-ce que vous êtes senti accompagné, protégé?
Alors moi, j'ai pas eu de soucis au niveau de l'accompagnement. Je veux dire, j'ai eu un peu de mal à dire que j'avais des soucis, parce que pour moi, c'était quelque chose qui était déjà génial pour moi de recommencer à travailler. Donc pour moi, les petits soucis, je pensais que c'était des petits soucis, j'avais pas l'impression que c'était des soucis graves. Du coup, j'ai eu un peu du mal à en parler. Mais comme les ZAT venaient me voir sur place, ils ont commencé à se rendre compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas idéales, peut-être, c'est ça le bon terme, idéal pour moi, dans ma relation avec ma tutrice à l'époque.
Et vous avez eu, du coup, grâce à ce regard extérieur, la possibilité de tester d'autres emplois, puisque là, juste avant la crise sanitaire, vous êtes allé, je crois, dans une autre conciergerie.
Exactement, j'ai mis fin à ce contrat-là, contrat chez Easy Life à la BNP, et j'ai recommencé dans une autre conciergerie d'entreprise qui s'appelle Merci Oscar, et qui cette fois-ci travaille pour Cdiscount, entreprise bordelaise.
Oui, le gros de la distribution de la région. Et du coup, là, ça se passe. Alors, avant cet arrêt forcé, dû à la crise sanitaire, du coup, là, vous avez pu, avec les expériences précédentes, davantage profiter de vos compétences. C'était plus satisfaisant.
En tout cas, j'ai essayé de les mettre en œuvre. Ça, c'est clair.
Confirme.
Mais je suis pas sûr. Je pense que ça m'a pas mal aidé parce que.
Oui.
C'est vrai que avant de commencer chez Easy Life, je n'avais pas idée de mes capacités. Je me disais, bon, bah, je suis quelqu'un de classique, bon, ça pourrait bien se passer, mais je n'avais pas de preuves. Et là, après cette période chez Easy Life, je me dis, ah, finalement, il y a quelque chose, j'ai quelques capacités. Et du coup, là, chez Merci Oscar, j'ai pu me rendre compte que j'en avais encore d'autres. C'était pas le même travail quand même, mais j'ai pu mettre d'autres.
Alors, Étienne, je peux confirmer hein, que toutes les compétences que vous avez pu mettre à profit chez Easy Life, elles ont pu être transférables chez Merci Oscar, enfin, au sein de ces discounts, au sein du groupe. On ne peut que valoriser votre capacité à être autonome sur le poste. Et je crois que c'est aussi important d'avoir toutes ces expériences parce que, comme dit Étienne, des fois, on ne sait pas le potentiel qu'on a. Mmh. Et donc, le fait d'être sur des dispositifs comme les AT Hors-Mur, ça permet de pouvoir faire des stages, de pouvoir peut-être se tester à des métiers qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaissait pas, et puis d'avoir tous ces bilans parce que on a une équipe quand même pluridisciplinaire au sein de ce service qui va en entreprise. Et ça, c'est vraiment l'atout majeur du dispositif. C'est qu'on n'est plus dans ce côté très institutionnalisé. On va vers l'entreprise, on va vers les personnes accompagnées, et on fait des propositions d'aménagement. Et en ça, c'est vraiment ce qu'attendent, je pense, les entreprises, et aussi, si je me trompe, Étienne, ce que vous attendez aussi de notre part, en tout cas.
Ah ouais, ça, enfin, moi, j'étais super surpris de l'accompagnement que j'ai eu, c'est ça que je veux dire. Je m'attendais pas à un truc aussi. J'ai pas envie de dire protégé, mais entouré, en fait. C'est pas quelque chose auquel je m'attendais et ça a été très, très bienvenu. Enfin, je veux dire que j'ai été vraiment agréablement surprise d'être aussi entouré.
Et justement, cet accompagnement, donc bon, évidemment, ça vous permet de revenir dans le milieu du travail aujourd'hui. Mm-hmm. Mais est-ce que vous avez... on entend aussi que ça vous a révélé à vous-même hein, dans les compétences que vous retrouvez et du coup que c'est valorisant et que ça. Mais en ce qui concerne justement aussi le regard des autres, puisque on en parle beaucoup en fait. Mais vous, est-ce que c'est quelque chose qui au quotidien vous tracasse ou en tout cas vous importe ou bien vous passez outre et vous allez travailler tout ça.
Alors moi je suis ce qu'on appelle un handicap invisible, donc d'un point de vue extérieur je suis quasi, on dirait pas que je suis handicapé en fait. Donc de ce point de vue là que je sois dans mon travail ou que je sois avec mes amis ou que je sois dans d'autres situations de ma vie, ça ne change pas vraiment. Mais c'est vrai que le fait d'avoir des personnes, en fait, le fait d'avoir des personnes qui connaissent mon handicap et qui du coup savent les personnes de l'ESAT, je veux dire, qui savent quel genre de problème je peux avoir, du coup ça m'aide pas mal parce que eux peuvent me prévenir, me dire, ah, tu auras peut-être des soucis, là tu as eu des soucis avec ça, tu aurais peut-être dû leur en parler, ou peut-être tu en as parlé, peut-être que je peux leur en parler pour toi. Enfin, c'était des situations qui sont pas faciles pour moi, à la base, à exprimer, en fait. C'est vrai que j'ai eu pas mal d'aide là-dessus. Parce que moi, j'avais un peu du mal
à leur
expliquer, en fait, ce qui pouvait me poser problème.
Donc, et aujourd'hui, vous aimeriez travailler dans quel secteur?
J'avoue que le tourisme, ça me brancherait pas mal, mais même si avec la crise actuelle, c'est pas vraiment...
Ça va revenir, ça va revenir, on y croit.
Mais normalement, au bout d'un moment, ça va s'arrêter, ce coronavirus. On espère tous que le Covid finira au bout d'un moment par arrêter, mais pour l'instant, ça a pas l'air d'être parti vraiment.
C'est compliqué, mais c'est vrai que dans les relations aux autres, dans la découverte, donc le secteur touristique à bon entendeur aux entreprises
tout à fait,
qui nous écoutent ce soir. Étienne Faure, 35 ans, et je crois que vous êtes même
bilingue.
Très voué, voilà,
vous êtes
très
bilingue
en anglais.
Tout à fait.
Ouais, c'est vrai que j'ai pas mal de capacités en anglais, mais bon, pour l'instant, je ne les ai pas trop utilisées.
On va faire en sorte, vous inquiétez
pas. Mais en tout cas, on vous souhaite ça, on vous remercie d'avoir été avec nous. Vous pouvez rester à l'écoute d'Eau de Radio pour écouter la suite de cette émission. Vina, vous entendez donc le plaisir et en tout cas la valorisation que peut apporter le fait d'être mis à disposition. Là, on entend qu'Étienne, en fait, il n'a qu'une envie, c'est que le corona s'arrête et qu'il puisse justement continuer à retrouver ses compétences, parce qu'on a bien entendu que là, on était dans le cadre d'une personne qui avait énormément de compétences déjà au préalable. Et vous l'avez dit, les cérébraux lésés, ils avaient une vie avant quand même. Donc, vous avez des personnes qui ont déjà certaines des diplômes, d'autres pas, mais qui ne sont pas tellement différentes des autres personnes et qui ont en tout cas des savoir-faire ou des compétences, et qu'il faut les redécouvrir petit à petit dans un milieu adapté, évidemment, dans un poste qui est adapté en amplitude horaire, en ergonomie de travail. Il attend que ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux entreprises qui nous écoutent là ?
Leur dire que qu'on sera présent, en tout cas pour, parce que je vois, enfin, on contacte toujours, on est toujours en contact et en lien avec les entreprises partenaires, avec les entreprises qu'on connaît, avec qui on a des contrats de mise à disposition, et des entreprises, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on prospecte pour se faire connaître également. C'est quand même une crise sanitaire qui amène à des grosses difficultés quand même de maintien à l'emploi pour ne serait-ce que leurs salariés. Donc on conçoit, parce que les retours qu'on peut avoir aujourd'hui, ce sont des retours qui sont tout à fait entendables, que les demandes de stage sont reportées à 2021, par exemple, tout simplement, que certains contrats de mise à disposition, comme pour Étienne, sont pour l'instant interrompus. Qu'est-ce que j'ai envie de dire aux entreprises ? Que je suis convaincue qu'on va, comme dit Étienne, passer à autre chose. Et à ce moment-là, tout simplement leur dire qu'on sera présent, que ce soit les AT ateliers sur des activités de sous-traitance, que ce soit les AT armures avec un panel de compétences qu'on peut leur mettre à disposition, parce que c'est ça la réalité, c'est qu'on accompagne 15 usagers au sein de ce dispositif et qui ont une capacité de pouvoir être disponibles assez rapidement. Alors, c'est vrai que le contrat de mise à disposition, certains pourraient un petit peu en voir une certaine similitude avec de l'intérim. Bon, moi, je préfère dire que c'est quand même un dispositif qui a vocation à être un réel tremplin pour les entreprises qui veulent aussi avoir un coup de pouce sur des activités saisonnières. Je vous donne un exemple, tout simplement. On a eu une entreprise de chocolaterie, Cadio Badi, à Pessac, qui, à un moment donné, ont fait en sorte de se dire, tiens, pourquoi pas, on prend une stagiaire donc d'une personne qu'on a accompagnée. Et puis, elle a découvert différents panels de chocolat à faire. Et finalement, elle a été prise pendant la période de Pâques, pendant Noël. Et après, finalement, on s'est dit, tiens, on joue le jeu jusqu'au bout. Période saisonnière finie, on essaye de la garder une fois par semaine et qu'elle vienne me travailler sur sa ligne de chocolat. Voilà, donc c'est aussi des expériences hyper positives. Des fois, on se rencontre juste pour un stage et puis après, on peut très bien par la suite voir la plus-value que ça peut avoir au sein des entreprises, parce que quelquefois, on voit des entreprises qui sont en difficulté sur 2-3 services, mais qui ne peuvent pas embaucher puisqu'il y a cette polyvalence et que sur aujourd'hui les offres d'emploi qu'on dépose à Pôle emploi, on raisonne par offre d'emploi, par fiche de poste, alors que nous, pas du tout. Aujourd'hui, les AT armures, c'est un travail aussi auprès des RH. C'est essayer de travailler différemment, de dire voilà, vous avez des tâches un petit peu complexes sur des activités qui sont un peu chronophages et qui vous prennent du temps, mais qui peut être travaillée par une personne de chez nous et qui va venir en renfort finalement. Voilà.
Oui. Et surtout permettre à l'entreprise aussi de se consacrer sur son cœur de métier.
Tout à fait. Tout
en
à
laissant,
fait.
En déléguant de la saisie. On a également d'autres plateformes en Gironde, d'autres initiatives. Nous allons bientôt accueillir Florence Mendibourg, coordinatrice pour la plateforme Andamos, et Bruno Deltreille, conseiller emploi accompagné pour la même structure. Andamos, c'est une plateforme interassociative d'emploi accompagné en Gironde. Nous allons les entendre dans quelques instants, juste après une petite pause.
Ah, 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 ah. du matin, je regarde mon tel. Je tourne en rond sans nouvelles de toi. Le studio est devenu mon hôtel. À base de soirées flyées sur les toits. Je peux pas penser, penser sans toi. Danser, danser sans toi. Je veux pas dormir, dormir sans toi. M'enfuir, m'enfuir sans toi. Je regarde ça dans le sablier. Je vois mes rêves démesurés. Au sommet sans toi, je m'y vois pas. Au sommet sans toi, je m'y vois pas. Mais je te vois, babe. Je te vois tout faire sans moi. Dans mes rêves, babe. Je suis tout seul et j'ai froid. J'ai prié le ciel. J'ai vu des tailles. Je veux pas être seul dans le manoir. Je peux pas penser, penser sans toi. Dormir, dormir sans toi. Je peux pas danser, danser sans toi. M'enfuir, m'enfuir sans toi. Je peux pas penser, penser sans toi. Danser, danser sans toi. Dormir, dormir sans toi. M'enfuir, m'enfuir sans toi. Je sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que je le ferai bien sans toi. Je sais pas si mes frères sont des traîtres. Tu sais, je me méfie même de moi. Je regarde direction où on doit aller. Du droit chemin tout seul, je me suis déjà dévié. Ton visage sous la lune, j'ai caressé. Vivi, elle m'éclaire dans la night. Chaleur du soleil dans mon cœur. J'ai goûté tes lèvres et tes pleurs. Sourire de mes ennemis, mes cœurs, babe. Sourire de mes ennemis, mes cœurs. Je peux pas penser, penser sans toi. Dormir, dormir sans toi. Je peux pas danser, danser sans toi. M'enfuir, m'enfuir sans toi. Je peux pas penser, penser sans toi. Danser, danser sans toi. Dormir, dormir sans toi. M'enfuir, m'enfuir sans toi.
Florence Bendibourg et Bruno Deltreille de la plateforme Andamos sont avec nous, je crois.
Oui.
Allô,
oui,
bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux et merci d'être avec nous ce soir. Merci de nous rejoindre sur le plateau d'eau de Radio 91.3 pour notre écho des entreprises consacré aujourd'hui à la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Florence Mendibourg, Bruno Deltreille, Andamos, c'est la plateforme girondine d'emploi accompagnée pour les personnes handicapées mentales, psychiques ou porteuses de troubles du spectre de l'autisme. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, on va peut-être commencer par vous, Florence. Vous êtes coordinatrice, c'est ça, pour la plateforme. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est née Andamos et quel est son champ d'action ?
Oui, alors, donc effectivement, Andamos est née en 2019 suite à la loi El Khomri qui a instauré en fait ce dispositif d'emploi accompagné au niveau national. Et en Gironde, en fait, ce sont 6 associations du secteur médico-social qui se sont réunies pour faire une proposition donc de réponse commune. Donc ça déjà c'est assez innovant puisque c'est rare que des associations qui habituellement ne travaillent pas ensemble collaborent sur un service. C'est aussi innovant dans la méthode de travail puisque l'emploi accompagné, ça consiste à pouvoir proposer aux personnes en situation de handicap un accès à l'emploi rapide. Et surtout un soutien dans l'emploi. Donc, nos conseillers emploi accompagnés, dont Bruno est là ce soir, font ce qu'on appelle aussi du job coaching, même si c'est un terme qu'on n'utilise pas trop, mais parce que c'est des méthodes d'accompagnement qui sont anglo-saxonnes à l'origine et qui ont été évaluées pour leur meilleure efficacité. L'idée, c'est de pouvoir proposer à ces personnes donc un accompagnement, surtout une fois qu'elles sont en emploi, et également aux employeurs un accompagnement au long cours, hein, puisqu'il n'y a pas de limite dans le temps. Parce que ça partait aussi du constat qu'il y avait un certain nombre de personnes en situation de handicap qui pouvaient accéder à un emploi. C'était pas tant ça la difficulté, mais par contre, elles avaient du mal à s'y maintenir parce que, au fil du temps, il pouvait y avoir des difficultés ou des situations un peu conflictuelles qui pouvaient émerger. Et en ça, en fait, les conseillers emploi accompagnés ou les job coach ont toute leur place pour pouvoir, dénouer ces situations et permettre aux personnes de se maintenir en emploi dans des bonnes conditions.
Et cette particularité d'accompagner donc les personnes souffrant de troubles psychiques, elle est spécifique à Andamos-Bordeaux.
Alors l'emploi accompagné, normalement, légalement, ça concerne tous les types de handicap, mais c'est vrai qu'en Gironde, le cahier des charges qui nous avait été demandé, c'était d'accompagner spécifiquement trois types de handicap, donc effectivement le handicap psychique, mais également donc des personnes avec une déficience intellectuelle et des personnes avec un trouble autistique.
Et du coup, comment ça se passe? Peut-être une question à Bruno Deltreil. Comment ça se passe d'être conseiller emploi pour cette typologie de bénéficiaires?
Alors, bonsoir. Alors, bonsoir. Avant peut-être de répondre à la question, je vais préciser aussi qu'on accompagne des personnes qui sont porteuses de trisomie 21. Je crois que ça avait été... aussi. Donc, dans mon travail du quotidien, effectivement, on est dans de la mise en relation entre, effectivement, une personne donc, qui arrive sur notre service et le monde de l'entreprise. Donc, effectivement, on va pouvoir accompagner soit directement une personne sur une recherche d'emploi qui arrive donc avec un projet professionnel ou qui arrive avec une idée, une envie, un rêve, effectivement, d'aller vers qui correspond en tous les cas à une mise en emploi, un domaine, j'allais dire, un bassin de l'emploi. Soit des personnes arrivent sur notre service et sont déjà en situation d'emploi. Donc, effectivement, du coup, on va travailler sur des axes différents. Effectivement, un conseiller en emploi peut faire des entretiens avec la personne, valider par des outils effectivement un petit peu administratifs un projet professionnel qui va permettre de définir après des actes, des objectifs qu'on appelle un plan d'action, en tous les cas, des objectifs à viser dans le cadre de la recherche d'emploi. Et ce plan d'action va permettre surtout de définir le qui fait quoi entre le conseiller et la personne, puisque l'idée effectivement de notre service est vraiment de se servir du pouvoir d'agir de la personne. C'est la personne qui va agir le plus possible en fonction de son souhait effectivement d'insertion professionnelle. À partir de là, effectivement, après, donc on définit des démarches. Dans ce plan d'action est défini si la démarche est faite en autonomie ou est faite avec le conseiller. Au préalable de ce type de situation, on peut avoir aussi, en fait, démarcher nous-mêmes des entreprises en tant que conseiller. On peut accompagner, effectivement, c'est-à-dire qu'on va faire de la prospection, on va faire du porte-à-porte, on rencontre les RH des différentes entreprises ou patrons ou artisans du secteur. On informe effectivement aussi sur la question de l'obligation d'emploi des personnes handicapées, donc de l'OETH. Alors ça c'est sur la partie démarchage. Et effectivement après sur la partie peut-être plus particulièrement handicap, on va aussi être sur la question de la sensibilisation. Ce qu'on appelle sensibilisation, c'est de l'information. C'est déstigmatiser, c'est peut-être faire lever aussi des préjugés sur des représentations que peuvent avoir des employeurs, mais des collègues salariés dans une entreprise au regard effectivement de l'accueil d'une personne en situation de handicap. Donc on va un petit peu déstigmatiser, des comportements, des idées reçues.
Oui, justement, je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur le handicap psychique semble peu ou mal connu, en tout cas du grand public. C'est vrai que l'handicap visible, moteur ou autre, est quelque chose qui est spontané. On imagine la nécessité d'adapter un poste de travail, mais en ce qui concerne l'handicap psychique, n'est-ce pas plus compliqué ? Florence, peut-être ?
Allez-y.
Alors, plus compliqué, je sais pas. En tout cas, ça a des spécificités. Effectivement, la première, vous en avez parlé un tout petit peu avant avec le témoignage. Donc, ça fait partie du handicap invisible, dans le sens où, c'est pas quelque chose qui se voit de prime abord. Après, la particularité du handicap psychique. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on entend par là? Ça va être toutes les maladies psychiatriques. Qui en général apparaissent à la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte. Et la particularité, c'est que c'est des maladies qui vont induire une variation de l'état. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où ça va aller très bien, et donc la personne en emploi, ça va rouler, elle va bien se débrouiller, et d'autres périodes où ça va aller beaucoup moins bien, et où du coup l'intervention du job coach va être très importante. Justement, je parlais tout à l'heure, des personnes qui ont du mal à se maintenir en emploi, c'est souvent sur ces moments-là qu'il y a besoin d'intervenir pour éviter des ruptures ou des conflits.
Qui ont besoin.
Pour imager effectivement un petit peu sur aussi comment on intervient, effectivement, notamment sur la question du handicap psychique, où on est souvent en fait, les personnes se confrontent à des difficultés relationnelles, avec des collègues, avec effectivement des difficultés de concentration, des difficultés au niveau de la fatigabilité, et qui vont un peu se traduire par, mettons, des prises de pause plus régulières ou des demandes de prise de pause plus régulières, ou peut-être parfois au niveau même de s'adresser à son collègue ou pour demander de l'aide ou pour demander de réexpliquer une consigne. C'est loin d'être évident pour eux. Et effectivement, sur ce type de handicap, on élabore avec l'entreprise sur aussi comment en fait permettre à la personne finalement soit de s'adresser à une personne référente, un tuteur, soit comment on peut mettre en place des supports qui vont permettre, donc des supports visuels, que ce soit visuel ou un petit carnet pour se rappeler la consigne qu'on doit faire chaque matin en arrivant, parce que des personnes peuvent avoir, mettons, dans le genre de trouble, des effets sur, vont oublier une consigne du jour au lendemain, il y a besoin de répéter. Donc effectivement, pour éviter de ressolliciter chaque fois le collègue, ce qui pourrait amener un petit peu au bout d'un moment à une fatigue du collègue sur de la répétition, l'idée c'est aussi de construire et de se servir des outils d'adaptation ou de compensation qui vont permettre à la personne en fait d'être la plus autonome possible, être du coup efficace, valoriser donc de plus en plus efficace, parce que la valorisation et l'estime de soi, on le sait, chacun d'entre nous, ça y fait beaucoup aussi sur la question de la compétence. Voilà.
Et du coup,
en gros.
Comment se passe justement la sélection ou la présélection de ces entreprises ? Vous les rencontrez d'abord, vous évaluez leur capacité à recevoir un de vos bénéficiaires, un de vos usagers ? Comment ça se passe concrètement ?
Tout à fait. Alors effectivement, je parlais au préalable un petit peu aussi de ce travail de prospection avec les entreprises, de ce travail de définition d'un projet avec la personne qui, bien sûr, elle n'est pas en emploi et dans le cadre d'une recherche d'emploi. Donc effectivement, l'idée, c'est de démarcher, de prospecter les entreprises, de rencontrer les RH, de faire le point sur les différents postes que peut proposer l'entreprise, et effectivement voir si il n'y aurait pas, même pourquoi pas dans la discussion, on peut aussi aborder sur le fait que d'une création ou d'imaginer en tous les cas un poste qui pourrait être peut-être un poste existant déjà en entreprise, mais qui pourrait être un petit peu séparé, démultiplié, aménagé, et qui pourrait permettre finalement à une personne sur du temps partiel, s'adresser avec peut-être des consignes plus spécifiques, avec du temps partiel. Pourquoi pas, pourrait convenir à une personne en situation de handicap. Donc, en tous les cas, chaque fois qu'on démarche une entreprise, on n'a pas spécialement une personne que nous accompagnons à placer. L'idée, c'est de développer un maximum le réseau et la connaissance du bassin d'emploi des entreprises, effectivement, sur le territoire de la Gironde, pour pouvoir, effectivement, répondre dans le cas où la personne personne handicapée va intégrer le dispositif, donc, pour pouvoir la mener le plus rapidement en emploi. C'est-à-dire que nous, notre idée, c'est de réagir très rapidement, effectivement. On va essayer de limiter en fait ce temps entre l'admission de la personne sur la plateforme et la mise en emploi. Donc effectivement, ça passe par beaucoup de démarches qui vont ne pas spécialement générer un emploi immédiat, mais par contre vont générer un petit peu un répertoire, un annuaire effectivement des entreprises pour lesquelles on va pouvoir revenir solliciter si un jour nous accueillons sur dans notre service une personne qui aurait tel ou tel projet qui soit en adéquation avec telle ou telle entreprise des marchés sur le même territoire que la personne. Donc c'est ce que demande effectivement plusieurs démarches. Voilà, en gros.
je crois que Vina a envie de réagir.
Sur effectivement le contact entreprise. Alors auparavant, j'étais chargée de relations entreprises avant d'être sur le poste de coordination. Il y a deux choses qui sont importantes. Hein. Il y a effectivement une personne qu'on reçoit, qu'on accompagne, qui a un projet ou pas forcément des projets, et on prospecte dans cette voie-là. Et puis après, il y a le côté de l'entreprise qui va avoir des besoins, qui va effectivement avoir des demandes un peu spécifiques. Et c'est tout l'intérêt d'être toujours au cœur des entreprises et être en contact avec eux pour pouvoir être le médiateur. Voilà, tout simplement. Je pense que nous, que ce soit Andamos, que ce soit Anesa Tormur ou n'importe quel professionnel, en tout cas de l'insertion pro, c'est toujours important d'avoir ces deux pans-là, en tout cas. Hein. Mm-hmm. Ces visions-là sont importantes, en tout cas, pour pouvoir faire en sorte d'être facilitateur, en tout cas.
Facilitateur, Florence Mendibourg, c'est comme ça que vous voyez un petit peu votre métier aussi ?
Le métier de coordination ?
Oui.
Oui, alors... c'est
pour les équipes.
Pour le coup, c'est... Je vous ai pas entendu, pardon ?
Alors, j'ai facilitateur, c'est Vina, hein, pour les équipes aussi. Enfin, il y a l'entreprise, les partenaires...
C'est une fonction qui est plus large, parce que moi, j'ai fait de l'accompagnement sur le terrain pendant plusieurs années, mais là, c'est vraiment plus... animer l'équipe du coup de conseillers en emploi accompagné, s'assurer qu'ils ont les moyens de faire des accompagnements de qualité par rapport à la méthode qu'on utilise. Donc par exemple, on fait partie d'une étude menée par l'université Paris 8 à Paris pour voir aussi comment on peut transposer ce modèle anglo-saxon en France, puisque les modes d'accès à l'emploi sont pas du tout les mêmes. Hein. Il y a beaucoup plus de barrières et de freins en France qu'il peut y en avoir là-bas. Donc il y a, voilà, c'est une partie de facilitation.
Oui, disons-le.
Pour l'équipe et vis-à-vis des employeurs, on a quand même une mission de communication et de sensibilisation, par exemple au niveau des clubs d'entreprise ou des branches professionnelles.
Et justement, cette semaine de l'emploi, quelques mesures, ça a commencé aujourd'hui, évidemment, avec il y a quelques dates comme ça, tout au long de la semaine, avec les mesures gouvernementales, est-ce que vous pensez qu'elles peuvent faciliter, comme cette enveloppe de 4 000 euros prolongée pour quelques mois supplémentaires pour l'embauche d'une personne en situation de handicap, c'est quelque chose qui peut faciliter ou finalement ça joue pas spécialement sur le regard qu'on peut porter sur le handicap dans le monde du travail?
Alors moi, je dirais que c'est un peu la cerise sur le gâteau, dans le sens où l'employeur qui a envie d'intégrer une personne en situation de handicap, elle va le faire d'abord parce qu'elle a un besoin de recrutement et que la personne qu'on va lui proposer a les compétences. Après, effectivement, surtout dans le contexte actuel, les aides financières, c'est que du plus. Mais c'est pas ce qui va déclencher le recrutement.
Et ce qui va déclencher le recrutement, c'est la sensibilisation dont vous parliez tout à l'heure. Et du coup, les campagnes que font les binômes de vos conseillers emploi, comme Bruno Deltreil, parce que je crois que vous fonctionnez par binôme, c'est ça, Bruno ? Vous êtes
tout à fait,
toujours
oui,
deux
tout à fait.
Pour échanger, justement. Oui. Et du coup, c'est finalement ce travail-là de fond au sein des entreprises qui peut peut-être davantage faire bouger les choses que les mesures financières.
Alors moi, j'ai peut-être un avis un peu plus différent aussi de ma collègue. Oui, moi, je pense que les aides financières peuvent créer effectivement, surtout dans le contexte actuel, peuvent créer effectivement des opportunités d'emploi. En tous les cas, des opportunités d'emploi, des opportunités d'expérience, d'essai, en fait, de rencontre entre, effectivement, une personne en situation de handicap et le monde de l'entreprise. Donc, je crois qu'effectivement, après, il faut être vigilant à ce que cette situation des nombreuses aides financières là, qui viennent d'être annoncées ne soient pas un effet d'aubaine, en fait, un petit peu, ou d'opportunité pour des entreprises. Mais je crois que là, notre expérience et notre expertise va permettre quand même d'aller voir au cours des contacts ou d'évaluer en tous les cas effectivement s'il pouvait y avoir la situation en fait qui se dégraderait, je dirais, plutôt dans le sens où effectivement il y aurait un intérêt plutôt financier à recruter la personne. Donc voilà, effectivement, moi dans mes démarches, en tous les cas, c'est quelque chose que je mets en avant actuellement. Parce que c'est effectivement un argument de taille. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, quand on démarche les entreprises, c'est d'ailleurs un petit peu la difficulté que l'ensemble des collègues, en fait, CEA, on rencontre. Hein. C'est-à-dire que c'est pas si simple que ça d'arriver sur une entreprise pour faire le tour des postes actuellement, pour réfléchir effectivement sur les prochains recrutements dans le contexte actuel, quoi. C'est une évidence.
La semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées mettait à l'honneur aussi une thématique qui était l'école inclusive, avec cette idée qu'il fallait préparer. Donc,
excusez-moi, on vous entend en fait très mal.
M'entendez-vous mieux à la régie
oui, là,
que
oui,
se passe-t-il?
Là, ça va mieux,
là c'est mieux.
Bon. Oui.
Alors, donc, je reprends ma question. Une des thématiques mises à l'honneur donc, pour cette édition 2020 de la SEPH, c'était l'école inclusive, avec cette idée qu'il fallait développer dès le plus jeune âge auprès des enfants, dès les toutes premières années de scolarisation, déjà des modules de sensibilisation pour qu'eux-mêmes deviennent les acteurs de ce changement de regard et de posture vis-à-vis du monde du handicap. Est-ce que ça vous paraît quelque chose de primordial, de nécessaire, d'éduquer finalement, de créer le mélange dès le départ?
Alors, moi, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que, comme je ne vous entends vraiment pas très bien, vous nous entendez bien?
Oui, très, très bien. Et nos auditeurs vous entendent aussi.
Moi, en tous les cas, effectivement, je trouve ça, bien évidemment, très intéressant et pertinent, effectivement, qu'il y ait une sensibilisation dès le plus jeune âge, en fait, un petit peu à la différence, au collectif, à faire partie d'un groupe. Et puis, ça m'évoque aussi, en fait, ce dont on parle un petit peu plus maintenant aussi, même dans les établissements, les institutions, sur, je dirais, le savoir expérientiel qui est en fait, en quelque sorte, maintenant, effectivement, on se sert aussi de la propre pratique de la personne en situation de handicap pour, effectivement, favoriser l'entraide d'une autre personne en situation de handicap. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'expérience du handicap de la personne pour accompagner peut-être d'une autre manière les personnes que nous-mêmes nous accompagnons. C'est-à-dire que nous nous servons effectivement, nous en tant que professionnels, conseillers emploi accompagnés, de l'expérience de ces personnes-là. C'est-à-dire qu'on favorise aussi le collectif, je dirais, en intégrant aussi l'expérience des personnes accompagnées dans notre manière de penser les accompagnements.
Un retour d'expérience, en fait.
Ça m'a fait évoquer ce point-là, en tous les cas.
Oui, alors, comme un retour d'expérience, et l'idée, ça serait en fait que la personne qui a vécu le handicap, c'est la plus à même d'en parler et de l'expliquer.
Tout à fait. Mais ça c'est un de nos principes d'intervention, puisque ce qu'évoque Bruno, c'est ce qu'on appelle... dans notre jargon, la perte d'aidance.
Ouais.
Voilà, où on essaie de le développer hein, petit à petit quand on a des expériences positives de personnes en emploi, qu'elles puissent venir témoigner auprès des autres. Et puis du coup, moi je fais le lien avec la question sur l'accès à l'école et l'inclusion. Je pense que ça ne pourra passer que par là, dans le sens où les enfants qui sont confrontés à l'accueil d'un enfant différent et handicapé dans leur classe, enfin, moi, je le vois dans mon cercle personnel, ça change énormément. Et de la même manière, que les employeurs que l'on rencontre. En fait, quand on les rencontre au début, qu'on est dans du discours, dans l'explication, etc., ça reste assez abstrait. Et il n'y a que quand ils rencontrent les personnes. Donc finalement, notre objectif, c'est ça, c'est d'arriver à décrocher la rencontre. C'est ça qui va tout changer, en fait. Hein. Donc l'expérience de se rendre compte que, certes, la personne peut être différente, mais que finalement, voilà, elle reste...
Une personne.
Finalement, tout ça, ce sont des rencontres.
Avec des compétences.
C'est totalement ça, des rencontres.
Vina.
Je confirme, Aïcha. Hein, c'est vraiment des rencontres. Hein. Des fois, on se laisse l'idée d'eux, et finalement, c'est la rencontre qui va faire que des fois, les choses vont se mettre en place. Alors, par rapport à l'école, moi, je suis une convaincue, en fait, de se dire qu'aujourd'hui, oui, on va auprès des entreprises. Moi la première et mes collègues aussi. Après, là où je me dis qu'on a un gros travail à faire et l'ADAPT a créé et met en place des actions de sensibilisation dans les écoles avec un outil qui s'appelle la anti-mallette. C'est un outil qui est fabuleux, qui mérite vraiment d'être connu, tout simplement parce qu'aujourd'hui, grâce à cette mallette, on a des enfants qui appréhendent mieux le handicap et qui vont pouvoir en parler à leurs parents, qui vont pouvoir porter aussi cette parole qui est des fois un petit peu mise de côté. Et je trouve que c'est tellement plus agréable aussi que les enfants puissent, dès le jeune âge, s'en approprier. Et pour en parler, moi, j'ai vu, hein, j'en ai parlé avec l'institutrice de mon fils, et ça a vraiment fait écho, parce que finalement, on va lancer cette action non pas sur une classe, mais sur toute l'école de Cursan qui est là dans le 33, et je trouve ça formidable, parce que ça veut dire qu'on a aussi des équipes pédagogiques qui sont plus qu'impliquées, voilà.
Et qui ont besoin peut-être
besoin une question, soutien.
Voilà, besoin de soutien, besoin d'être accompagné là-dessus, puisque on sait que dans le cadre de ce qu'on appelait les temps d'activité périscolaire, on recevait comme ça des intervenants. Alors certes, la situation s'y prête très peu maintenant, puisque même les parents ne peuvent pas rentrer dans les écoles. Florence Mendibourg, est-ce que en Damos, vous accompagnez les personnes en situation de handicap psychique, porteuses du trouble du spectre autistique, mais aussi des trisomiques, des personnes atteintes de trisomie 21, c'est quelque chose qu'en Damos pourrait faire, aller dans les écoles et parler, par exemple, de la trisomie 21 et avec un langage adapté à des enfants, c'est quelque chose qui pourrait être envisageable?
Alors, c'est pas dans nos missions à proprement parler. Après, on peut rester ouvert à toute proposition. Hein, mais je pense qu'il y a d'autres structures dont c'est vraiment la mission et le cœur de métier.
Et puis, on n'est peut-être pas tant... effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué, en fait, l'agrément, c'est-à-dire l'âge des personnes que l'on accompagne. Effectivement, on accompagne les personnes à partir de 16 ans.
Un âge de travail.
Effectivement, voilà, on est plutôt sur les personnes... sur les profils, effectivement, les projets de professionnels, on est plutôt sur ou des centres de formation. Donc, pourquoi pas aller parler de trisomie 21 pour une personne qui souhaiterait faire une formation, effectivement, et qui serait porteuse de trisomie 21.
Bien sûr
qu'on peut le faire. Mais on n'est pas dans l'école, au sens où moi je l'entends, effectivement, non, on intervient moins. Mais plus, effectivement, soit sur la formation, et soit sur... principalement aussi sur l'emploi.
Oui, sur ces derniers 100 mètres, parfois, dont certaines personnes ont besoin d'être accompagnées, sur lesquelles certaines personnes ont besoin d'être accompagnées pour pouvoir vivre leurs rêves. Ce que j'entends, moi, surtout, c'est qu'on a de belles structures et on a envie d'imaginer un travail collaboratif. Et c'est ce que fait en Damos. Vous avez 21 associations, je crois, ou 20 associations qui participent donc à cette plateforme. C'est bien ça?
Non, 6, mais un peu moins.
Alors, j'ai vu grand, moi. 6 associations.
Six, c'est déjà beaucoup, je vous assure. Mais on a 13 conseillers aussi, donc je ne sais pas d'où venait le chiffre, mais voilà, c'est déjà une structure assez importante, puisque on a démarré il y a un an et demi, donc on n'est pas encore au maximum, mais voilà, d'ici un an, on sera à 240 personnes accompagnées. Donc, voilà.
Oui, c'est déjà énorme. Alors, je suis désolée, mais cette émission, évidemment, forcément, elle touche à sa fin. En tout cas, est-ce que on peut peut-être donner un site internet pour trouver les informations? Si une entreprise a envie de connaître en Damos, comment est-ce qu'elle peut s'y prendre?
Alors, sur internet, vous tapez en Damos, HANDAMOS, avec un point d'exclamation. Mm-hmm. Il n'y a pas de site, enfin d'adresse particulière, hein, vous allez tomber dessus. Mm-hmm. Voilà, il y aura nos coordonnées, évidemment.
Vous prenez sur LinkedIn.
Sur LinkedIn, voilà, et sur Facebook, et on peut vous trouver, donc vous contacter pour en savoir plus sur donc cet implant accompagné pour les personnes portant des troubles psychiques. Merci Florence Mendibourg et Bruno Deltreille d'avoir répondu présent aujourd'hui. Merci à vous,
merci
Vina
à vous.
Sidoyal, donc coordinatrice à l'ESAT de Florac. Oui. Donc, pour tout simplement contacter l'ESAT de Florac situé rue Gaillan-Richelieu, si on a des petites mains, des petites façons à faire, des mises à disposition.
Alors, si vous avez des questions, tout simplement, parce que la force de l'équipe, en tout cas, c'est de pouvoir ouvrir ses portes, donc déjà de faire visiter nos ateliers, de faire rencontrer les personnes qu'on accompagne pour qu'ils puissent exposer leurs compétences, donc tout simplement de venir. Mais effectivement, on va avoir le site de l'ADAPT pour un champ plus divers, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, sur les différentes structures qui sont présentes partout en France, sur les 10 régions. Et après, plus spécifiquement sur l'ESAT Atelier, sur l'ESAT hors mur, je vous invite plutôt d'aller voir le réseau des GESAT, où on est donc inscrit, et vous allez avoir donc les informations qui pourraient vous intéresser si éventuellement des entreprises souhaitent travailler avec nous. Et ça sera avec grand plaisir.
Merci à tous les trois d'avoir répondu présent pour cette émission. Alors bien sûr, nous n'avons fait que fleurer la question de l'emploi accompagné. Nous le savons, mais chez Aude Radio, on soutient ces belles initiatives et on espère reparler de ces questions-là très très vite avec vous, Florence Mendibourg, Bruno Deltreille de la plateforme Andamos, Vina Sidoyal de l'ESAT de Florac. Merci à toi, Joël Gutmann, pour avoir assuré indéfectiblement la régie ce soir. Merci à tous. Je vous rappelle que cette émission sera rediffusée vendredi 20 novembre à 11h. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans 15 jours avec toute l'équipe de Aude Radio sur la même fréquence. 91.3. Bonsoir, bonsoir. Maintenant, place au rock.
Merci.
Merci. Merci.